Bonsoir Charles-Lucille.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, des voix africaines.
Oui, il y a quelques jours, apparu dans le journal Jeune Afrique, un article sur les grandes voix lyriques africaines. Alors, l'article cite entre autres le baryton camerounais Jacques Greg Belobo, les contre-ténors marocains Rachid Ben Abdelslam et congolais Serge Kakoudji, mais surtout un certain nombre de musiciens sud-africains, parmi lesquels Preti Yende, qu'on a vu récemment en France dans le rôle de Lucia di Lammermoor, ou encore la soprano Pumeza Machikiza, dont le premier album paru l'année dernière avait fait grand bruit. En l'occurrence, cet album s'appelait Voice of Hope et donnait à entendre un programme éclectique de grands airs, Puccini notamment, dans lesquels elle avait fait ses débuts sur scène, et puis des airs traditionnels des townships. Un programme et une voix très remarquée, et ses origines n'étaient pas pour rien dans cette reconnaissance rapide et quasi unanime de la presse. Le Figaro titrait avec peut-être un brin de simplisme Pumeza Machikiza, la diva des townships. Je m'interroge ainsi sur la stratégie mise en place par la chanteuse et surtout sans doute aussi par ceux qui la représentent dans les vastes affaires de l'opéra, cette stratégie qui consiste à mettre en avant ses origines réputées doublement minoritaires dans le milieu, africaine et pauvre, puisque la jeune chanteuse est née dans les bidonvilles de la ségrégation sud-africaine. Il est vrai que l'histoire est séduisante, je rappelle, Pumeza Machikiza aurait entendu, adolescente, un air d'opéra pour la première fois par hasard à la radio. Elle chantait alors sans solfège dans des chœurs à l'église et n'aurait pas su lire une partition avant ses 21 ans. Autre chose remarquée dans ces différents portraits, le fait que tous ces chanteurs, quasiment, aient quitté le continent africain pour accéder au conservatoire en Europe ou aux États-Unis. En l'occurrence, Pumeza Machikiza a commencé à apprendre à Cape Town, où apparemment il y a une grande école de chant, mais elle est vite partie passer des auditions en Angleterre, où elle a finalement étudié pendant 7 ans au Royal College of London. Un de ses projets est d'ailleurs de lever des fonds pour construire une école de musique dans son ancien quartier, et on touche sans doute là à la question la plus cruciale, à savoir la question de la formation. Quand on jette un coup d'œil à la liste des écoles supérieures de musique dans le monde, il y a une liste de Wikipédia très bien faite, une écrasante majorité se situe en Europe et aux États-Unis, plusieurs en effet en Afrique du Sud, d'où la présence, on peut l'imaginer, de plusieurs chanteurs de cette origine sur les grandes scènes, quelques-unes dans les pays du Maghreb, mais presque pas en Afrique de l'Ouest, encore moins en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, comme d'ailleurs toutes les structures culturelles, la musique ne fait pas exception. Les chanteurs africains font, eux, tellement figure d'exception que chaque sortie discographique ou distribution dans une grosse production donne lieu à des remarques de ce type, la diva des townships. Espérons qu'un jour, ni la presse, ni les labels, ni les scènes ne capitaliseront là-dessus.
Oui, mais alors, cette émergence, c'est un fait visible, c'est le moins qu'on puisse dire, là. C'est la façon dont c'est raconté, Emmanuel Giuliani.
Mais c'est-à-dire, oui, c'est le storytelling, comme on dit, je crois, pour beaucoup de domaines et pas que culturels. Mais c'est un peu ce qu'on a fait, par exemple, je pensais en vous écoutant, Lucille, au cas de Gustavo Dudamel, dont avant de dire ça va être l'orchestre de Los Angeles ou les Berliners ou etc., dirigé par Gustavo Dudamel, on disait, vous savez, ce chef sorti du système El Sistema, ce système qui permet aux enfants pauvres, ce qui n'était pas son cas à lui. Enfin, voilà. De la même manière, là, j'y pense, parce que sur votre excellente antenne de France Culture, en ce moment où très bientôt, il y a un avoinu de Barbara Hendricks, quand Barbara Hendricks raconte son enfance qui était avec son père pasteur, sa mère institutrice, entre la maison, l'église et l'école en province, ignorante jusqu'à ce qu'elle les découvre violemment à la télévision des questions de ségrégation. Et après, on a raconté que le parcours de cette fille, cette petite fille et cette jeune fille venant là aussi d'un milieu, alors pas défavorisé, mais un milieu simple où il n'y avait pas d'argent dans la famille. Voilà, on aime raconter ces histoires, à la fois avec un sentiment de culpabilité, sans doute un sentiment aussi un peu flatteur de se dire, bah, vous voyez, les grandes scènes occidentales, elles, maintenant, elles accueillent ces... Preti Yende, on en parlait avec Anna tout à l'heure, qui a fait une formidable Lucia. Donc, bien sûr, tout ça est un peu ambigu, mais on ne peut pas s'empêcher de même que quand Grace Bunbury a été la première à chanter Vénus dans Tannhauser à Bayreuth, la première femme noire à chanter à Bayreuth. Voilà, on cite ces cas-là. Et comme vous dites, ce qu'il faut espérer, c'est que c'est une porte ouverte à ce qu'on en parle plus. Et maintenant, Dudamel, c'est Dudamel.
Voilà. Côté chant, vous avez cité que des femmes.
Non, à part Dudamel. Ah oui, pour côté chant.
Vous, Lucille Comeau.
Oui, non, c'est vrai. On pourrait parler
masculine, mais plus rare.
On pourrait parler de Willard White, on pourrait parler
de Willard White,
bien sûr.
Sir Willard White. Oui, mais c'est vrai que ces figures émergentes, et c'est peut-être aussi dans le storytelling, pour reprendre ce mot, il faut que je cherche l'équivalent québécois.
Mais est-ce que de manière générale, les chanteuses ne sont pas plus valorisées dans les médias et que les chanteurs?
Je ne sais pas, moi, j'ai
Jonas.
Jonas,
c'est Romero.
Les Rolando, les Rolando.
Non,
ça c'est pas vrai. Pretty pour en dire un mot, puisque vous l'avez découverte, vous, dans le rôle de
l'histoire n'est pas très loin finalement, hein, parce qu'elle aussi, donc c'est en écoutant une pub, en voyant une pub à la télé sur la BBC, je crois, pour le site de British Airways, qu'elle a entendu c'est l'ACMÉ, je crois, il me semble.
Je crois, oui.
Ouais, qu'elle a entendu l'ACMÉ, qu'elle a été séduite, etc. C'est vrai qu'il y a pas mal de Sud-Africains, parce qu'il y a un très bon professeur de chant, enfin, le directeur de l'école de chant de Cape Town, qui est italien d'ailleurs, et qui après envoie pas mal ses petites pouliches ou poulains en... Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, c'est vrai, l'expression me faisait rire, pouliches ou poulains.
Oui. En Europe. Voilà. La question de la formation, évidemment, elle est essentielle. Et d'ailleurs, il y avait eu un concert il y a quelques temps au Théâtre des Champs-Élysées où là aussi on peut se poser la question, les voix d'Afrique, bizarre comme intitulé de concert. Mmh. Enfin bon, voilà, on peut y réfléchir. Et en même temps, pourquoi pas? Et d'ailleurs, ce concert avait pour vocation, il y avait quelque chose de caritatif, et justement de construire un conservatoire en Afrique. Bah, tout ça, c'est très à l'américaine finalement. Voilà, les storytelling, le fait de mettre l'accent sur le fait que ce soit des voix africaines, jusqu'à ce que ça se normalise, effectivement.
Oui, Lucille Comeau.
Et alors, la deuxième chose, est-ce que vous trouvez ça intéressant, justement, parce que ce sont des artistes qui le font presque tous, de mélanger dans les albums qu'ils sortent et dans les récitals qu'ils donnent, des airs traditionnels de leur pays d'origine et l'opéra classique extrêmement institutionnalisé tel qu'on le connaît. J'arrive jamais à savoir si c'est vraiment une stratégie, si c'est quelque chose de profondément sincère de leur part, et je sais pas si c'est une bonne idée musicalement. Je suis toujours un petit peu gênée devant ce type de mélange là.
Mais c'était pas le cas pour Pretty Yende.
Non, Pretty Yende, non. Non, mais en l'occurrence, par exemple, Rachid Ben Abdeslam, il fait ça aussi. Serge Kakoudji, il a fait un spectacle où il mélangeait du baroque et des airs traditionnels congolais, donc c'est quelque chose qui revient souvent.
Emmanuel Giuliani.
Là, j'allais dire, c'est un peu au cas par cas, ça peut marcher, être magique. Moi, je me rappelle un récital de Kirite Kanawa à l'Opéra Garnier, où elle avait chanté, accompagnée au piano, des mélodies et des airs d'opéra, et elle avait fini a cappella par une mélodie maori qui visiblement l'accompagnait depuis toujours, et je n'oublierai jamais, je me rappelle encore l'émotion, et on s'était pas dit, tiens, elle nous fait ça, parce que, ou on lui a demandé, évoque la musique traditionnelle de ton pays, c'était sublimissime. Donc là, j'ai envie de dire, voilà, ça dépend vraiment...
Au cas par cas.
Au cas par cas.